Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Parfois, si vous ne voulez pas perdre le fil d'une histoire, vaut mieux avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Si vous aimez la laine, alors vous irez du côté d'Ariane et du Minotaure. Si vous préférez les balades en forêt, alors vous choisirez la stratégie du petit poussé, c'est-à-dire les cailloux. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici un extrait de cette histoire. Un soir que les enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur. « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » Le petit poussé ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se coucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite il revint à la maison. On partit et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où à 10 pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Les petits cailloux sauveront momentanément la vie du petit poussé et de ses frères. C'est pour se débattre face à l'abandon, pour se sortir de cette situation que les petits cailloux blancs sont semés. Ils sont comme une ligne, un chemin secret que lui seul voyait pour revenir vers ceux qui voulaient le faire partir. Ces petits cailloux, bien que semés, ne feront rien pousser, si ce n'est l'autonomie et l'indépendance du petit poussé. Il souligne son côté futé et il se distingue de ses frères en essayant de ne pas être victime de la situation. Les cailloux blancs sont en effet le chemin du retour vers la case départ, puisqu'il faudra recommencer ce petit cirque, se frayer à nouveau un chemin vers ceux qui veulent tant se débarrasser de lui et de ses frères. Après toutes ces joyeusetés, petite pause musicale avec Ryupi et le morceau On a Cloud.
Thank you.
raconte, les pierres et les cailloux ne font pas que sauver des vies. Voici un conte intitulé « Le procès de la pierre ». Un jeune adolescent, du nom de Tan, voyage à pied jusqu'au village de son grand-père. Il marche depuis le lever du jour, il marche sans s'arrêter. À la tombée de la nuit, il arrive aux abords d'une ville. Il s'arrête en contrebas de la route et cherche un endroit pour dormir. Tan a quelques pièces de monnaie dans la poche et c'est toute sa fortune. Il craint de se faire voler pendant son sommeil et cherche un lieu sûr pour cacher son argent. Il voit une grosse pierre plate, la soulève et pose ses pièces dessous. Rassuré, il s'allonge et s'endort. Un homme peu scrupuleux passe tout près au moment même où Tan remet la pierre en place. Il attend que le jeune homme soit endormi, lui dérobe son argent et disparaît. Tan dort à point fermé jusqu'à l'aube. À peine réveillé, il va se laver dans un ruisseau puis revient vers la pierre plate. Il la soulève pour reprendre ses pièces, pensant que cela pourrait lui payer un bon repas en ville. Il soulève donc la pierre et passe la main dessous. Ses doigts ne rencontrent que la terre sèche. Alors il retourne entièrement la pierre. L'argent a bel et bien disparu. Tan est désespéré, il ne comprend pas. Il éclate en sanglots et appelle au secours. Des gens de la ville entendent ses pleurs. Ils s'attroupent autour de lui et lui demandent la cause de son désarroi. Entre deux sanglots, Tan tente d'expliquer ce qui lui est arrivé. Petit à petit, une foule l'entoure, mais nul ne comprend ce qu'il dit quand le chef de la ville arrive. Il fend la foule, s'approche de Tan et lui demande de se calmer pour lui expliquer la cause de son malheur. La nuit dernière, j'ai dormi au bord de la route, j'ai caché mon argent sous une pierre, au petit matin, j'ai regardé sous la pierre et mes pièces avaient disparu. Le chef fronce les sourcils, il réfléchit sérieusement au propos de Tan. La population guette sa réaction et se demande comment il va réagir. « Où est cette pierre ?» demande le chef. « La voici !» répond Tan en montrant à tous les habitants le lieu où son argent a disparu. « Arrêtez cette pierre !» ordonne sévèrement le chef. « Elle sera jugée pour vol. Elle est sans aucun doute la coupable. » Les gens sont abasourdis. Ils n'en croient pas leurs oreilles. « Pourquoi me regardez-vous ainsi? Allez, saisissez cette pierre. C'est bien elle qui a dérobé l'argent de ce jeune homme. » Le ton du chef ne prête pas à discussion. Les habitants obéissent aux ordres. Ils saisissent la pierre et l'emportent sur la place centrale de la ville où se tiennent les procès. Le chef s'installe et son clerc ouvre les registres de justice, prêt à noter les échanges. Toute la population de la ville les entoure, curieuse du déroulement de l'étrange procès. Le chef donne l'ordre d'apporter la pierre pour répondre à l'accusation de vol. Deux hommes apportent la pierre plate et la posent devant le chef, qui la regarde d'un air furieux. Dans le public, chacun fait de son mieux pour retenir son rire. Chacun dissimule le sourire naissant sur son visage avec ses mains, pendant que le chef questionne la pierre. « Pierre, admets-tu avoir dérobé l'argent de ce jeune homme ?» Claire, notez que le suspect refuse de répondre. « Pierre, que faisais-tu au bord de la route ? De quel village es-tu ? » Le chef n'a jamais été aussi sérieux. Il regarde sévèrement la pierre. Dans la foule, les gens se cachent le visage pour rire. « Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ? » Des ricanements jaillissent de la foule. Certains rient ouvertement, d'autres font mine d'éternuer ou de renifler. Le chef, excédé, regarde autour de lui et dit sévèrement. « Vous savez qu'il est interdit de rire pendant un jugement ? C'est une cour où la loi exerce ses droits. Je vous préviens, celui qui transgresse les règles du tribunal sera puni. » Il se tourne à nouveau vers la pierre et demande. « Pierre, tu te crois maline ? Ne pense pas que tu t'en sortiras en demeurant silencieuse. Réponds aux questions que je te pose. Qu'as-tu fait quand ce jeune homme s'est endormi ? Qu'as-tu fait de son argent ?» Le juge est hors de lui. Il hurle. « Tu te moques de la loi ? Puisque c'est ainsi, tu es condamné à 30 coups de fouet, ensuite nous te trancherons la tête !» La foule ne peut plus se retenir. Un homme ose éclater de rire, une femme ricane ouvertement et, petit à petit, tous rient à gorge déployée. Une clameur joyeuse s'élève sur la place et, le fou rire parti, nul ne peut plus l'arrêter. Seul le chef garde son sérieux. Il regarde le public et attend le silence. Chacun fait de son mieux pour se contrôler et petit à petit, le calme revient. Le chef se tourne alors vers son clerc et lui dit « Note sur tes registres que, quand le public a entendu la sentence du chef lors du procès de la pierre voleuse, il a exprimé son mépris pour la justice par le rire et la dérision afin de tourner en ridicule son chef. Chaque personne présente est donc condamnée à verser une amende d'une pièce de 10 piastres. » Plus personne ne sourit. Les hommes et les femmes se mettent en rang et payent leur amende. Le chef rassemble les pièces et les donne à Tan. « Tiens, mon garçon, voici un dédommagement pour le préjudice que tu as subi dans notre ville. Faute de rendre une vraie justice, on peut toujours essayer de consoler la victime. » Tan, heureux, remercie le chef et reprend sa route. Quant à la pierre, des hommes l'ont posée aux abords de la ville, lui ont donné 30 coups de fouet et ne sachant comment la décapiter, ils l'ont laissée au bord du chemin pour aider les voleurs à réfléchir avant d'agir. À la première lecture, ou écoute, ce conte nous fait sourire. C'est son absurdité qui est flagrante. Comment une pierre pourrait-elle être responsable d'un vol? Que pourrait-elle faire de l'argent dérobé? Quelle est l'utilité des 30 coups de fouet qui lui sont assénés? Et le dialogue entre le chef et la pierre, on en parle? Mais si on gratte un peu derrière l'apparente absurdité de ce conte, on s'aperçoit que c'est, en réalité, une histoire de pouvoir et d'autorité. C'est une tentative de justice que nous voyons ici. Ce procès met en lumière l'absurdité du chef, sa soif d'être écouté et respecté. En désignant la pierre comme responsable du vol, le chef montre que la justice règne, que personne ne s'en tirera s'il a commis une faute. D'ailleurs, c'est ainsi que se termine le conte, je vous en rappelle les dernières lignes. Quant à la pierre, des hommes l'ont posée aux abords de la ville, lui ont donné 30 coups de fouet et ne sachant comment la décapiter, ils l'ont laissée au bord du chemin pour aider les voleurs à réfléchir avant d'agir. À une autre époque, on laissait les pendus accrochés pendant longtemps aux entrées de la ville. De là à savoir ce qui est le plus radical entre la pierre et les pendus, je ne saurais vous le dire. La pierre, sans aucun doute. Dans ce conte, la punition prime sur la raison. Et en voulant rendre justice à Tan, qui s'est fait voler ses pièces, le chef veut surtout asseoir son pouvoir et faire régner la sévérité. Il rappelle son autorité aux villageois. Et ceux-ci seront d'ailleurs punis pour avoir ri de leur chef. Je vous cite le texte. « Note sur tes registres que, quand le public a entendu la sentence du chef lors du procès de la pierre voleuse, il a exprimé son mépris pour la justice par le rire et la dérision afin de tourner en ridicule son chef. » Ce que le chef punit, c'est le fait d'avoir été tourné en ridicule, le fait de ne pas avoir été pris au sérieux par son peuple. Par le prétexte du procès de la pierre, le chef fait, en réalité, le procès de son peuple. Ici, la pierre est utilisée pour symboliser le pouvoir, alors que les cailloux blancs du petit poussé soulignent l'enfance. Son idée est ingénieuse, bien sûr, mais elle rappelle que le petit poussé n'est qu'un enfant et qu'il se bat à armes inégales avec ses parents. Tandis que ses parents traversent une situation délicate et prennent une décision en conséquence, lui, face à la gravité de la situation, lutte en semant des cailloux. Rappelons ainsi les enfants qui jouent dans les bacs à sable, qui s'inventent des histoires avec 2 cailloux et 3 bouts de ficelle. Son innocence et son enfance rejaillissent à travers l'objet qu'il choisit, c'est-à-dire les cailloux. Et encore une fois, cela renforce l'opposition entre le monde des adultes et celui des enfants. Mais l'étrangeté du conte du petit poussé réside en partie dans le fait que la figure du petit poussé est à la parfaite croisée de ces deux mondes. Le petit poussé choisit un objet enfantin pour se sortir d'une situation relative au monde des adultes. Allez, on repose un peu les neurones avec une petite pause musicale. Sarah Skirali et son morceau Paranoïde.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations.
Le petit poucé est un personnage qui cherche sa place d'enfant dans un monde d'adultes. Et en parlant du monde des adultes, voici un conte intitulé « L'homme et sa chaussure ». Un homme avait tout pour être malheureux. Le contrôle fiscal de son chien s'était mal déroulé, sa maison était passée par inadvertance sous un rouleau compresseur et remplacée par un centre commercial, ses voisins avaient fait une soirée crêpe et ne l'avaient pas invité, ses parents étaient morts récemment et ne lui avaient rien légué, et pour finir, il avait un caillou dans sa chaussure qui, tous les jours, lui causait une douleur indicible. Quand on lui demandait comment ça allait, il répondait que le contrôle fiscal de son chien s'était mal déroulé, sa maison était passée par inadvertance sous un rouleau compresseur et remplacée par un centre commercial, ses voisins avaient fait une soirée crêpe et ne l'avaient pas invité, ses parents étaient morts récemment et ne lui avaient rien légué, et pour finir, il avait un caillou dans sa chaussure qui, tous les jours, lui causait une douleur indicible. On rouspétait pour le contrôle fiscal, on compatissait pour sa maison, on maudissait ses voisins, on se désolait pour ses parents. À tout ceci, on ne pouvait rien. Mais pour le caillou, il y avait une solution. Il n'avait qu'à ôter sa chaussure, la secouer et faire tomber le caillou. Il en serait débarrassé une bonne fois pour toutes. Ce à quoi il répondait « Oui, mais le soir, quand je rentre chez moi, le seul réconfort que j'ai dans ma vie, c'est d'ôter ma chaussure et de pouvoir marcher enfin sans douleur. » Menu plaisir, me direz-vous. Enlever sa chaussure pour ne plus sentir la douleur causée par un petit caillou, c'est un loisir qui ne coûte pas cher et qui est à la portée de tous. Excite le VTT, les randonnées, les soirées coinches, laissez de côté tous vos petits plaisirs et passez au caillou dans la chaussure. Mais il me semble que le conte essaie de nous dire autre chose. Parmi tout ce qui nous arrive dans la vie, nous n'avons pas toujours un pouvoir d'action. Se sentir impuissant face aux épreuves peut être agaçant, infantilisant. Alors, quand surgit un petit levier d'action, on ne va pas le laisser filer. Dans cette avalanche de malheurs qui tombe sur la tête de ce personnage, la seule chose qu'il peut faire, c'est mettre un terme à la douleur causée par le petit caillou. Il ne peut faire que ça. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Tous les matins, il met ses chaussures et repart pour une journée de douleur, et tous les soirs, il enlève ses chaussures pour mettre un terme à cette douleur. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas définitivement ce petit caillou dans sa chaussure ? Bonne question. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est au personnage. Moi, je ne suis que la conteuse. Cependant, je vous dirais que parfois, on a besoin d'un petit tas de fumier dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a besoin de se trimballer son lot de malheurs, qu'on ne veut pas s'en défaire, qu'on ne veut pas y remédier. Parce que c'est confortable, parce qu'on les connaît, nos petits soucis. On se délimite une zone de confort, on reste bien au chaud dans nos tracas. Parce que le bonheur, voyez-vous, ça fait peur. Quand tout ira bien dans notre vie, on va faire quoi après ? Allez, pour terminer, je ne vais quand même pas vous laisser sur cette question existentielle, je vais vous raconter une drôle d'histoire dont je ne sais absolument pas quoi faire. Alors, je vous la donne, et peut-être que vous serez plus inspiré que moi. Elle s'intitule « La pierre barbue ». Un jour, une hyène qui se promenait tomba nez à nez avec une grosse pierre barbue. « Ça alors ? » dit-elle. « Une pierre barbue ?» À ces mots, la pierre la saisit par la patte, la fit tournoyer dans l'air et la fracassa par terre avec un bruit terrible. La hyène se releva péniblement, regarda attentivement la pierre, puis s'en alla trouver les biches un peu plus loin. « Venez voir !» leur dit-elle. « Regardez un peu. Qu'est-ce que c'est ?»« Ça alors ?» s'exclamèrent les biches. « Mais qu'est-ce que c'est ? Une pierre barbue ?» À ce mot, la pierre les saisit, les fit tournoyer dans l'air et les fracassa sur le sol. La hyène eut vite fait de les achever et de les dévorer. Le lendemain, la hyène s'en alla trouver une bande d'antilopes et leur demanda de venir voir la chose. « Ça alors ? » dirent-elles en la découvrant. « Une pierre barbue ?» À ce mot, la pierre les saisit, les fit tournoyer dans l'air et les fracassa sur le sol. La hyène eut vite fait de les achever et de les dévorer.
C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.